Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Eh bien voilà, nous rendons grâce à Dieu pour l'occasion qu'il nous donne ce matin encore de venir devant lui, non seulement pour l'écouter, mais pour lui apporter également notre adoration et qu'il reçoive toujours favorablement parce que nous le faisons au nom de Jésus-Christ. Je voudrais nous proposer ce matin de réfléchir sur un thème qui est celui intitulé comme suit, le sanctuaire intérieur. Le sanctuaire intérieur. Nous prions. Notre Dieu et notre Père, nous voici tels que nous sommes devant toi, avec nos pensées, avec nos pratiques, avec nos manières de faire. Et nous voulons prier que ce matin, ton esprit juge toutes ces choses. Nous prions que ce matin, ta grâce se déverse sur nous et que ton Saint-Esprit, se mouvant au-dessus de nous, au milieu de nous et travaillant dans le cœur de chacun de nous, nous illumine, nous instruise, ouvre nos yeux. Béni sois-tu, Père, pour ce que tu es et pour cette grâce immense que tu nous fais en nous gratifiant de ta présence bénissante ce matin. Nous te prions et nous t'adorons. Au nom de Jésus. Amen. Le sanctuaire intérieur. L'homme a plutôt un attachement mortifère au visible. L'attachement à des choses concrètes. L'attachement à des choses tangibles. Il s'attache à ces choses. Il s'accroche à ces choses. En réalité, c'est un comportement dérisoire de substitution de ce que nous avons perdu depuis dans le jardin d'Éden. L'homme avait le privilège d'avoir la compagnie de Dieu, la proximité de Dieu. Et quand il a perdu ce privilège, quand il a perdu cette relation de proximité, depuis, il cherche à combler ce vide en s'attachant religieusement, j'allais même dire spirituellement, à des choses physiques, visible, tangible. Mais ce n'est que désespoir. Voici un peuple qui vient d'être délivré de la servitude. Un peuple qui a été esclave pendant plus de 400 années. Un peuple qui vient d'être délivré à coup de miracles et de prodiges jamais expérimentés auparavant par n'importe quel peuple que ce soit. Un peuple qui vient d'être délivré des mains des Égyptiens, des mains des dieux, des magiciens, des sortilèges, des statues de tout genre. Un peuple qui vient d'être délivré de cela. Un peuple qui vient d'assister à la vacuité, à l'inutilité, d'adorer de ces dieux faits de mains d'hommes. Un peuple qui vient d'être délivré par le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, qui malgré tout cela, vient demander... Nous voulons avoir des dieux qui marchent devant nous. Faites-nous des dieux du genre de celles que nous avions, que nous voyons en Égypte. Du genre de ceux qui nous dominaient en Égypte. Nous voulons des dieux visibles, des dieux matériels, des dieux concrets, des dieux tangibles, ici et maintenant. Les amis, sous la Nouvelle Alliance, beaucoup d'entre nous traîne encore un comportement assez semblable. Un comportement assez semblable qui consiste à considérer des lieux, qui consiste à considérer des postures, qui consiste à considérer des manières, qui consiste à considérer des formes d'actes, sinon comme s'ils étaient déterminants pour leur adoration, du moins comme étant indispensables à leur adoration. Ce Dieu vivant. C'est une révolution, les amis. Lorsque, dans le livre de Jean que nous avons lu, Jésus a employé cette expression en esprit et en vérité. Il dit à la dame, à la femme samaritaine, que le temps est déjà venu, que ça commence déjà. Où ce ne sera ni sur la montagne au pied de laquelle il se tenait, devant le puits de Jacob, ni même sur l'autre montagne qu'il devait désigner de sa main, Il parlait du mont Garizim et de la montagne de Sion. Que ce n'est plus sur ces endroits que l'on adorera Dieu, mais que ça va être en esprit et en vérité. C'était une révolution parce que le mont Garizim a une importance. Le mont Garizim, la montagne de Garizim, est le symbole de la réalisation de la présence de Dieu, ou plutôt de la promesse de Dieu aux enfants d'Israël. Le mont Garizim, c'est le symbole d'une part de l'alliance des dieux et le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était encore de l'autre côté du Jourdain. Quand il s'apprêtait à rentrer, Dieu renouvelle sa promesse. Et il dit au peuple d'Israël, vous traverserez le pays, je vous ferai prendre possession du pays. Et voyez-vous, il se trouve là-bas, le mont Garizim et le mont Ebal, au centre du pays. Lorsque vous aurez conquis tout le territoire que je vous destine, vous mettrez d'un côté, sur le mont Garizim, la moitié du peuple qui prononcera des bénédictions. Vous mettrez de l'autre, sur le mont Ebal, l'autre moitié du peuple qui prononcera les malédictions. Ces malédictions et ces bénédictions voudraient dire que tant que nous nous comporterons comme Dieu voudrait que nous le fassions, en étant fidèles à la loi de l'Éternel, l'Éternel nous bénira. Mais quand nous aurons désobéi, que nous n'aurions pas agi selon la loi de l'Éternel, la malédiction surviendra sur nous, une alliance. Et ils ne peuvent le faire qu'une fois qu'ils auront conquis le territoire tout entier. Voilà pourquoi c'est également le symbole de la réalisation de la promesse de Dieu aux Israélites. Mais le mont Garizim est un autre symbole. Peut-être même plus qu'un symbole, ça pouvait être une réalité. Parce que c'est sur le mont Garizim que Manassé a construit un temple en se révoltant contre le temple qui est à Sion. Vous le savez, à un certain moment de l'histoire d'Israël, les 10 royaumes du nord ont été déportés par les Assyriens. Et le roi d'Assyrie, pour que l'espace ne reste pas vide, a fait amener des étrangers d'ailleurs pour habiter cette partie. Et puisqu'il y avait là un reste d'enfants d'Israël, il y a eu donc mixage, des mariages mixtes entre les étrangers qui étaient venus et le peuple d'Israël, des 10 tribus du nord qui étaient restées là. Et il y eut également naturellement mélange de religions et de croyances. De sorte que les deux autres tribus du sud avaient une aversion pour ce nouveau peuple-là. Pour leur dire, vous n'êtes pas avec nous, nous ne vous connaissons pas. Ceux qui étaient restés là ont lié alliance avec vous, ils ont désobéi. Et vous qui êtes venus d'ailleurs, nous ne vous connaissons pas. Votre adoration n'est pas l'adoration de notre Dieu. Et les descendants de ce peuple, pour se rendre à Sion, ne pouvaient plus aller là-bas, refusaient d'y aller. Et c'est comme ça que Manassé a dit, bon, mais nous allons construire un autre temple ici, sur le mont Garizim. En d'autres termes, le mont Garizim était un lieu d'adoration, était un lieu de culte. Il semble que jusqu'aujourd'hui encore, quand vous allez en Israël, là, le culte est en train d'être offert. Le mont Sion désigne en réalité toute la ville de Jérusalem. Mais il est synonyme également du temple de Dieu. Car c'est en ce lieu que Salomon a construit le temple de Dieu, qui avait été détruit et qui fut rebâti. C'est vrai que ce n'est pas spécifiquement sur cette montagne Sion, mais il y a eu finalement un transfert qui a été fait, et finalement c'est là qu'est considérée l'existence du temple de Dieu. Et c'est dans ce temple, les amis, que toute la vie du peuple d'Israël se déroulait. Le mont Sion est synonyme d'identification du peuple d'Israël. C'est là que Dieu était descendu pour faire valoir que, effectivement, sa présence sera sur cette maison. Que c'est là qu'il faut que les enfants d'Israël viennent le rencontrer. Que c'est là qu'il bénira le peuple d'Israël. Que c'est là qu'il pardonnera leurs péchés. Que c'est là qu'il recevra leur reconnaissance. C'est là également qu'il les juge. Les deux montagnes, le mont Garizim et la montagne de Sion, des lieux d'adoration. Et Jésus, en disant que ce ne sera plus ni sur le mont Garizim, ni sur la montagne de Sion, n'indique pas un lieu pour remplacer Garizim et Sion. Il n'a pas dit que ce sera en tel lieu désormais. Il ne mentionne pas lieu, mais il prononce plutôt deux mots abstraits, esprit et vérité. Mais que veulent dire ces deux petits mots? L'esprit s'oppose à la matière, donc au visible justement. L'esprit se réfère à la pensée, à ce qu'on ne voit pas, mais qui anime la vie. La vérité s'oppose au mensonge, à l'erreur, à l'illusion, à l'apparence, c'est-à-dire à ce qui est contraire à ce qui se passe à l'intérieur. En disant donc que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, Jésus indique que ce sont désormais les pensées des adorateurs qui seront le siège de l'adoration du Dieu vivant. Le siège de nos idées, là où se passent nos réflexions, là où nous pouvons imaginer, là où nous réfléchissons, c'est là que se trouve le lieu, entre guillemets, d'adoration de Dieu. C'est l'intérieur de l'homme, à l'intérieur de l'homme, que se trouve désormais le sanctuaire où il faut adorer Dieu. C'est au-dedans d'eux que se trouve le lieu où l'holocauste, c'est-à-dire le lieu où la consécration totale de l'homme peut être réalisée. C'est dans ses pensées, dans son intérieur. Le lieu où l'offrande végétale, c'est-à-dire la reconnaissance du fait que tout appartient à Dieu, c'est dans ses pensées, à l'intérieur de lui, que cela s'opère. Le sacrifice de communion, c'est-à-dire c'est là, dans son pensée, dans son esprit, que se trouve le lieu de faire la paix avec Dieu et le lieu de communier avec Dieu. Le sacrifice d'expiation, c'est-à-dire que c'est là que se trouve le lieu où l'on doit reconnaître la gravité du péché. C'est à l'intérieur. C'est là aussi qu'on demande le pardon et qu'on acquiert le pardon dans la pensée, dans l'esprit de l'homme, ce que d'ailleurs la Bible appelle le cœur de l'homme. Les sacrifices de culpabilité, c'est aussi là que se trouve le lieu où il faut avouer ses fautes, reconnaître ses fautes. Et parfois, lorsque la faute nécessite réparation, c'est de là que le processus de réparation est engagé. Est déclenché. C'est à l'intérieur, la pensée de l'homme. Et pour les sacrifices d'action de grâce, comme pour dire merci à Dieu avant de crier à tue-tête, c'est d'abord là, à l'intérieur, que l'action de grâce est présentée à Dieu. Les lieux, les objets de culte ou le culte, les fêtes, les réunions, les postures, les jeûnes, la fréquence de toutes ces choses-là n'en seront désormais que des expressions. L'expression de ce qui se passe en nous. Mais ce n'est pas cela, la chose elle-même. Elles ne sont que l'expression d'une réalité intérieure, une réalité intérieure qui les dépasse d'ailleurs. Et les dépasse de loin. Parce que jamais nous ne pourrons reproduire à hauteur de ce qui se passe entre nous et Dieu, ce qui peut se voir dans les faits, dans les actes, dans les lieux autour de nous. Une réalité intérieure qui dépassent en réalité ce qui peut se produire extérieur et qui n'en sont que les expressions. Sanctuaire intérieur. Adorer en esprit et en vérité veut donc dire que, et aussi, que c'est partout et en tout temps que l'adorateur est dans le sanctuaire. Vous n'êtes pas dans le sanctuaire que vous êtes ici, quand vous êtes ici, dans cette salle ou dans un autre temple. C'est également que c'est notre âme, notre esprit, en toute sincérité, qui est le lieu de l'adoration. Sans formalisme, le vrai endroit d'adoration. La chose importante, c'est vous, le temple de Dieu, le temple intérieur, dans votre sanctuaire intérieur. Une fois que vous êtes dans votre sanctuaire intérieur, peu importe le lieu où vous vous trouvez, peu importe le moment où vous vous trouvez, peu importe les circonstances où vous vous trouvez, lorsque vous êtes dans votre sanctuaire intérieur. Et de même qu'il ne peut donc y avoir ni lieu pour prier, il ne peut y avoir non plus un temps pour prier, un moment pour prier, une posture pour prier, etc. Nous sommes en prière à tout moment, les amis. Comment se pourrait-il que je puisse me contenter de prier matin, midi et soir à la culture juive pour dire que je suis en prière? Pourquoi croire que c'est quand nous sommes ici et qu'on se tient debout, qu'on nous dit de nous tenir debout pour prier, qu'on pense que c'est à ce moment seulement que nous sommes en train de prier? Il fut un temps où je refusais de prier avant de manger. Je disais, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas maintenant seulement que je vais me mettre à prier. Pourquoi est-ce que je ne prierai pas plutôt à la fin? Mais quand je me suis rendu compte que ça commençait à scandaliser certaines personnes, je dis, bon, ce n'est pas la peine d'être en scandale aux autres. Il faut réviser et changer. La base de tout cela, Jean nous dit à la fin, mais c'est simplement parce que Dieu est esprit. C'est simplement parce qu'il est esprit. Il ne se retrouve pas dans un lieu. Il ne se trouve pas qu'à une heure, à une minute donnée. Il ne se retrouve pas seulement que lorsque nous adoptons une posture, se tenir debout, s'agenouiller, se coucher, battre l'air comme on le fait généralement, crier à tue-tête, s'époumoner. Ce n'est pas seulement quand nous faisons cela que Dieu est présent ou qu'il est davantage présent. N'est-il pas absent parfois quand nous faisons comme ça? Parce que Dieu se trouve à tout moment, n'importe quand, n'importe où, qui plus est, dans votre sanctuaire intérieur. Il y est toujours et permanemment. Il en va comme de l'histoire de la Sulamite avec son bien-aimé. Dans le texte de Cantique des Cantiques que nous avons lu, le Cantique des Cantiques est un beau texte que nous n'exploitons pas toujours. Ça donne une image formidable de la relation que l'enfant de Dieu devrait avoir avec son Dieu, centré sur l'amour. Justement. On ne sait pas trop comment, mais à l'ouverture du livre de Cantique des Cantiques, nous voyons cette belle bergère qui s'est retrouvée dans le palais de Salomon. Il se trouve là, au milieu des femmes du harem de Salomon, les femmes qui sont appelées les filles de Jérusalem. Et nous la voyons engagée des conversations. Tantôt avec les filles qui, elles, chantent plutôt le bonheur d'être aimées par un si grand personnage, qui, elles, chantent plutôt le privilège d'être proposées par un si grand roi pour être la première dame de la cité. Il y a des dialogues avec ceux-là. Mais tout le drame qui se joue dans le livre de Apocalypse, dans le livre de Cantique, est dominé par un personnage. Un personnage qui, lui, ne se montre jamais. Il ne s'est pas du tout montré, tout au moins jusqu'à la fin de l'histoire. Le nœud du drame consiste dans la lutte entre la tentation de céder aux promesses de Salomon et le désir de rester fidèle à son berger de fiancé. Comment résister à Salomon? Et comment rester fidèle à son fiancé, le berger, qui n'est pas présent. L'action dramatique progresse de degré en degré, de la simple déclaration d'amour à la promesse d'occuper le premier rang des femmes de la cité, en passant par des offres de bijoux de tout genre, jusqu'à ce qu'elle se plaigne que son bras risque de se casser sous le poids des bijoux dont elle est ornée, et la démonstration de l'apparat royal au devant d'elle. La pauvre dame, une seule échappatoire s'offre à la Sulamite, enfermée qu'elle est dans le palais royal de Salomon. Elle s'évade. Elle s'évade dans la pensée et rejoint son bien-aimé. Elle est physiquement là, mais dans ses pensées, elle se retrouve avec son bien-aimé. Alors, elle évoque ses perfections, comme pour s'en souvenir, comme pour ne pas en perdre une seule miette. Elle se souvient de sa beauté. Elle évoque son souvenir verbalement, de manière à ce que d'autres entendent de ces beaux moments qu'ils passaient ensemble. Comment est-ce qu'ils se promenaient ensemble, les deux? Comment est-ce qu'ils parcouraient la nature? Comment est-ce qu'ils se réjouissaient? Les tendres paroles qu'ils se disaient l'un l'autre. Ces évocations étaient si immenses, si intenses, qu'ils perdent totalement de vue la réalité ambiante, qui du coup n'a plus d'emprise sur elle. Parce qu'au fond d'elle, parce que dans ses réflexions, parce que dans ses pensées, c'est avec son fiancé qui n'est pas là qu'elle entretient une relation, une communion. La réalité autour d'elle a pâli et n'a plus d'emprise. C'est donc de cette communion invisible avec lui que la Sulamite entretient sa relation avec son bien-aimé, la seule et véritable relation qu'elle valorise. Que voulons-nous dire donc? Qu'en déclarant « les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité », Jésus nous invite à cette sorte de communion que la Sulamite entretient avec son bien-aimé qui n'est pas présent, qui n'est pas là. Si nous voulons échapper à l'attrait de ce monde, résister victorieusement aux péchés, aux tentations qui nous sont régulièrement proposées, nous avons besoin de développer une vie intérieure riche par la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Une communion intense avec lui, à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quel moment de la nuit. Quoi que nous soyons en train de faire, nous avons une communion avec le Christ, notre Seigneur bien-aimé. Si nous voulons offrir à Dieu un culte qui lui soit agréable, c'est à l'intérieur de nous-mêmes que la chose se passe, que tout se passe. Pas d'abord à l'extérieur, mais d'abord à l'intérieur. Que dire donc? Les fréquences, les postures, les moments, les programmes de prière ne seraient donc d'aucune utilité? Pas vraiment ce que nous sommes en train de dire. Nous avons l'exemple de notre Seigneur Jésus, qui sortait tous les matins, qui s'éloignait pour prendre du temps avec son Dieu. La prière à genoux, par exemple, est une indication de notre témoignage à la soumission à un Dieu. Et j'aime toujours me voir, quand je me mets à genoux, j'aime toujours évoquer le Dieu des cieux et j'aime toujours parler de ce qu'il n'y a que devant lui que je me suis agenouillé. Comme pour dire à l'ennemi, au diable, tu cherches mon adoration, tu ne l'auras pas. C'est seul le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham et le Dieu de Jacob, c'est celui-là qui a mon adoration. Voilà, je me mets à genoux devant lui, mais pas devant toi. Lorsque nous sommes ensemble, c'est une sorte de chorégraphie qui est bonne à regarder, c'est bon à voir. Lorsqu'on s'assoit, lorsqu'on se lève, lorsqu'on courbe la tête, tous ensemble, mais c'est une belle chorégraphie aux yeux de notre Dieu. lui devant lequel la nature tout entière, toutes les galaxies, les milliards de galaxies font une sorte de chorégraphie devant lui. Mais il aime notre chorégraphie. Lorsque nous sommes, ce que nous voulons dire, les amis, c'est que nous devons nous efforcer à développer notre communion invisible avec le Père. Et que nous ne nous lassions pas d'entretenir cette relation avec lui. C'est à partir de là que les autres choses peuvent avoir un sens. Tout en sachant que ce qui se passe en nous dépasse de loin les symboles visibles que nous pouvons présenter. Nous ne nous accrochons pas à ces symboles visibles, mais c'est l'intérieur qui nous conduit à tout cela pour la gloire de notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen.
Oh,